croisée.
Chers auditeurs de Forum Opéra, bonjour et merci de nous retrouver pour ce 31e numéro de Croisée. C'est presque un rituel, désormais. Tous les deux ans, nous l'attendons avec une impatience fébrile, entretenue par quelques indices aussi savamment que parcimonieusement distillés, comme pour mieux brouiller les pistes, jusqu'à ce qu'enfin elle reparaisse, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Mais n'est-ce pas le propre des grands interprètes que de se prêter au jeu des métamorphoses qui rend soudain méconnaissable des traits, une personnalité que l'on croyait familier, à la fois proche et insaisissable, débordante de sincérité et auréolée de secrets, Cecilia Bartoli est passée maître dans l'art de la transformation, par son chant d'abord qui, sur toute l'étendue d'un registre alliant l'héroïque profondeur du contralto au frémissement élégiaque du soprano le plus impalpable, sait se parer de la palette infinie du nuancier des passions humaines. Par son image, aussi, avec laquelle elle n'hésite pas à jouer, cultivant sa propre légende en équilibre sur le fil ténu de l'auto-dérision. Car au sérieux indubitable d'une entreprise musicologique attachée à mettre en pleine lumière des compositeurs injustement condamnés à demeurer dans l'ombre de contemporains plus illustres, voire même dans les brumes de leur propre mystère, s'ajoute, touche finale autant qu'essentielle, la dimension ludique de mise en scène souvent imprévisible. Tour à tour, Anita Ekberg batifolant dans la fontaine de Trévi en décolleté pigeonnant, et Anna Magnani au regard plus fuligineux que nature, non seulement pétrifiée, mais aussi émasculée par empathie avec ses castrats dont la vocalité fantasmée lui va si bien, Cecilia Bartoli n'a pas davantage hésité à sacrifier sa chevelure et à revêtir la soutane d'Agostino Stefani, évêque, musicien et diplomate, d'aucuns diraient espion, pour remplir sa précédente mission. Et c'est coiffé d'une toque en fourrure que la fée Bartoli s'est penchée sur le berceau de l'opéra russe après un périple à la nage qui l'a menée jusqu'à Saint-Pétersbourg. Cecilia Bartoli, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a incité comme ça à remonter le courant de la Baltique et les eaux censément glaciales du
golfe de Finlande
sur les traces de compositeurs italiens pour la plupart qui ont été les pères de l'opéra russe?
Voilà, c'est exactement ça. Moi, j'étais toujours intéressée à tous les compositeurs. Beaucoup de compositeurs, musiciens, chanteurs qui finalement au XVIIIe siècle sont partis de l'Italie, invités en Espagne, invités en Angleterre et à la cour de Russie. Alors finalement à la cour de Saint-Pétersbourg finalement. Et le premier compositeur qui était invité à la cour, c'était Porpora, qui était le grand maître Porpora, qui venait justement de Naples, de l'école napolitaine. Et lui, il refuse, à un certain moment, refuse et décide d'aller à Londres et devenir le grand concurrent d'Handel. Et à la place de Porpora, c'est Araya, le plus jeune compositeur, qui décide de faire cette aventure, voilà, grande aventure, et de partir justement pour la Russie. Et, mais ce qui m'avait toujours étonné, c'est que toute la période finalement de russe, italo-russe, et surtout toute la musique qui appartenait à cette période-là, je n'arrivais pas à la trouver en Italie. Et alors, je quand même cherchais dans la bibliothèque du conservatoire Saint-Pietro Maiella, le conservatoire à Naples, ou même à Milan, ou même dans plusieurs bibliothèques en Italie, et c'était le mystère. Et finalement, le mystère, tout était beaucoup plus clair quand j'arrive à Saint-Pétersbourg, parce que je prends justement le train, je me dirige vers la mer du Nord, je prends le train jusqu'à Lübeck. Et le bateau, justement, le bateau qui brise, le brise-glace, le brise-de-glace. Alors, j'arrive à Saint-Pétersbourg, un voyage incroyable déjà, voilà, pour ressentir un petit peu ce qu'ils ont fait en 18e. Mais, hélas, la bibliothèque était fermée. Fermée, mais pas seulement, c'était pas le jour de fermeture, c'était fermé à cause de... Ils étaient en train de restaurer beaucoup de livres. Et là, alors, tout dessus,
Il fallait demander les clés au tsar Valéry Gergiev.
Voilà, mais j'étais un peu naïf, mais ça fait quelques années déjà, c'est pas parti hier pour Salzbourg. Et c'est ça, alors, j'ai appris qu'il faisait quand même prendre contact avec l'opéra et surtout avec le maestro Gergiev, que c'était finalement grâce à lui que j'ai eu l'accès à la bibliothèque. Mais j'ai eu plusieurs rencontres avec lui parce que c'était important, justement, très jaloux de sa bibliothèque, c'était très important de lui expliquer que c'était un projet italo-russe. Alors peut-être là, je pouvais prouver qu'à la cour de Saint-Pétersbourg, ils entendaient justement la musique baroque. Et voilà. Et après plusieurs rencontres, j'ai eu la possibilité d'avoir l'accès à la bibliothèque et je dois dire que les gens à la bibliothèque sont vraiment adorables, tous les bibliothécaires très très gentils et surtout très surprises probablement de voir une cantatrice intéressée à les partitures, voilà, à les manuscrits.
Et qu'est-ce que ça représente en termes de volume de musique, de partition, ces opéras italiens qui sont conservés à la bibliothèque du Mariinsky?
Ben, le volume, c'est énorme parce qu'il faut considérer que les trois tsarines, impératrices, ils ont quand même, on parle de presque 100 ans de musique, alors à partir de l'époque baroque, mais aussi jusqu'à l'époque classique. Alors la première invitée en compositeur à la cour, c'était Anna. Anna et après la Elisabetta et la Catherine la Grande, bien sûr. Et pour chaque anniversaire, le compositeur, ils écrivaient justement de la musique. Alors la musique qu'on retrouve à la bibliothèque, c'est énorme le matériel qu'ils ont dans la bibliothèque. Et c'est pour ça que là, ce projet, on s'aidait. La grande frustration, c'était justement de choisir 80 minutes de musique. Là, je peux m'imaginer que je pourrais toute ma vie, mais toute la prochaine génération, la génération d'après pourra continuer à faire de la musique écrite pour la cour de Saint-Pétersbourg. Et j'espère d'ailleurs que les autres musiciens, qu'il y aura deux autres musiciens intéressés à cette période, oui.
Et justement, quels ont été vos critères de choix pour les airs qui figurent sur le disque?
Alors, le critère, c'était un peu, d'abord, c'était de prouver justement que la musique, l'opéra russe, a commencé bien avant Glinka, parce que quand on a étudié à l'école, au conservatoire, on a étudié justement que, on étudie encore que la musique russe commence avec la période, avec Glinka, une vie pour le tsar. Alors là, d'abord, c'est la grande découverte, c'est que la musique en Russie a commencé beaucoup plus tôt, et avec des compositeurs italiens. Alors, la choix, c'était difficile, parce qu'on retrouve bien sûr de la musique d'Araya, que moi je connaissais déjà, Araya,
Il y a un air sur
il y a un air sur
Sacrificium.
Sacrificium, et lui, et la période italienne d'Araya a rien à voir avec la période russe, parce que c'est là, qu'on découvre un autre aspect de ce compositeur et une autre façon aussi d'écrire la musique. Je trouvais alors beaucoup de airs dans les opéras d'Araya. Les airs, on peut parler des airs pathétiques, des airs très très doux, très lyriques et mélancoliques aussi. Enfin, c'est comme si le compositeur était en train de chercher l'âme russe, voilà. Et enfin, une autre façon d'écrire la musique. Et ça m'a bouleversée, honnêtement. Parce que moi, je pensais à Raya, voilà, le virtuose, la musique très virtuose, qui avait finalement écrit pour les grands castrats de l'époque. Alors, non, là, c'était la grande surprise. Et en plus, de découvrir un compositeur que moi, je ne connaissais pas, c'est Raupach, un compositeur allemand. Qui a vécu une bonne partie de sa vie avec la troupe d'Araya. Lui, il était claveciniste. Et qui devient plus tard le compositeur à la cour de Saint-Pétersbourg. Alors, lui, c'était la grande surprise parce que la qualité de musique de Raupach, c'est quand même incroyable.
Fas veni, fas spiret salvaio, vel et spiret salvaio, se cias vas deus as navaio, fas mare neai, ubo faio, se cias vas deus as navaio, fas mare neai, ubo faio, ubo
thank you.
vous chantez la majeure partie du temps en italien. Là, il y a deux airs en russe, mais comment est-ce que vous vous êtes imprégné de cette âme russe? Alors qu'est-ce qu'on fait? On lit Tolstoï, on lit Pouchkine.
C'est vrai que quand je trouvais, en plus, c'est vrai, la majorité des livrets, c'était en italien. Mais là, avec beaucoup de surprises, avec la grande surprise, je trouve justement de livrets originalement chantés
en russe
et écrits en russe par le poète Soumarokov. Et je me suis dit, ah voilà, c'est ça, c'est le grand défi finalement de commencer à étudier le russe. Et enfin, honnêtement, je suis sûre que je peux améliorer la langue et la prononciation. Mais j'ai pris vraiment de cours avec une professeure de russe, ouais. Musicien aussi, qui m'a ouvert. Finalement, c'est vrai que la langue russe, c'est assez mélodieuse. Mais c'est une langue, il y a de couleurs, de sonorités que nous, on n'a pas dans la langue italienne. Alors, j'étais obligée de récréer avec difficulté, on peut dire. Les consonnes, oui.
Et est-ce qu'il y a beaucoup, dans le fond de la bibliothèque du Mariinsky, d'opéras écrits sur des... Enfin, d'opéras de cette époque, écrits sur des livrets russes, à part Alcesta et Céphale et Procris.
La recherche, finalement, ce projet, c'était sûrement... Il y aura deux autres opéras. Je suis sûre qu'il y a deux autres opéras chantés en russe. Le but de ce projet, c'est aussi de prouver, finalement, les compositeurs à la cour et un petit peu... 100 ans d'histoire de musique. Oui. Alors, on a commencé, bien sûr, avec la musique baroque. Et puis, finalement, ce projet se termine avec Cimarosa, qui est le compositeur peut-être le plus connu dans ce projet. Mais c'est déjà la période classique. Voilà, c'était un voyage de 100 ans d'histoire musicale à la cour de Saint-Pétersbourg. Mais je suis sûre, là, c'est le premier pas. Alors, je suis sûre qu'il y a beaucoup encore de répertoires et sûrement des opéras aussi en russe.
Parce que finalement, on sait aussi que Catherine la Grande n'aimait pas beaucoup l'opéra italien. Elle préférait le théâtre français. Elle a elle-même écrit apparemment des livrets en russe. Est-ce que vous avez eu accès à ces opéras de Sarti notamment?
De Sarti. Non, c'est ce que on connaît de Catherine. C'est vrai qu'elle n'était pas si musicienne, mais elle avait quand même compris l'importance d'inviter des artistes à la cour de Saint-Pétersbourg. Alors vraiment, à l'époque, Saint-Pétersbourg, c'était comme la fenêtre vers l'Europe, vers l'Occident. La première, finalement, invitée, une troupe italienne, c'était Anna. Et c'était grâce, la première impératrice, grâce à l'amitié que Anna, elle avait avec le roi de Pologne, Auguste. Et voilà, c'est comme ça qu'il commence l'histoire de cet échange culturel. Et finalement, Catherine, la grande, elle aimait... probablement la danse, et il y a même une anecdote de Catherine que apparemment il y avait un clavecin qui avait un son terrible. Alors elle décide de détruire ce clavecin et de faire une comment on dit ça, zlita, qu'on y va avec
une luge.
Alors on raconte beaucoup de histoires de la Catherine la Grande, alors, mais c'est vrai que c'était une femme assez vivace. Alors, je suppose que ça peut être vrai, finalement.
Et qui étaient les chanteurs qui étaient présents à la cour de Russie? C'était des chanteurs italiens?
Il y avait des chanteurs italiens, mais il y avait aussi, à la cour de Saint-Pétersbourg, ils avaient invité même des castrats, finalement, à Saint-Pétersbourg et même en Russie, à Moscou. Il y a du document que le grand Carestini a chanté dans la Clemenza di Tito de Assé, a chanté à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Alors, ça veut dire que, finalement, l'intérêt pour les voix aussi italiennes était très grand. Mais après, à la cour de Russie, on y commence, justement, à la cour de Saint-Pétersbourg, à avoir une école de chanteurs russes. Cette école que, finalement, c'est grâce à cette école qu'à les grandes impératrices qu'ils ont commencé, justement, cette école russe que, voilà, jusqu'à maintenant, on a encore la grande histoire d'école russe, chanteurs et musiciens en général, oui.
Parce que c'est quand même une écriture très virtuose.
Oui, mais c'est vrai, c'est une écriture virtuose, mais finalement, c'est moins virtuose de ce que j'avais moi-même imaginé. Oui. Ce projet, ce n'est pas le projet virtuose, finalement, c'est beaucoup plus lyrique, comme je disais avant, les airs dans ce disque, et puis les airs que je veux chanter aussi en concert, parce que là, ça me donnera plus de possibilités, justement, de montrer aussi enfin, de la musique, pas dans le disque, mais aussi musique instrumentale. C'est plus dans le... Dans la douceur, dans la profondeur, je pense, ce projet, que dans la grande virtuosité.
Et vous parliez de 100 ans de musique. C'est vrai que c'est un peu votre premier récital avec un spectre stylistique aussi large, puisque ça va du baroque, vraiment, avec Araya, Raupart, à vraiment
au classicisme,
Chimalos. Alors, comment, dans un même programme, on fait sentir cette évolution en gardant une unité quand même?
Voilà, gardant une unité, c'est la choix, bien sûr, de Zer, mais aussi d'avoir des compositeurs comme Raupart ou Manfredini, qui ont déjà, dans l'écriture, ces périodes de transition pré-classique aussi. Et là, on a fait tout ce travail un petit peu... chronologique, on peut dire, avec l'aide aussi du maestro Fasolis et l'orchestre baroquiste. Enfin, c'était... Mais avec Diego, on a travaillé beaucoup. Là, on avait fait déjà plusieurs projets ensemble. Oui. Le projet Mission. Stéphanie, oui, avec la musique sacrée, la musique d'opéra et la musique instrumentale de Stéphanie. Alors avec lui, voilà, on a commencé à regarder les partitions, on a reçu les microfilms. Quel processus, c'était pas évident de demander tout ça, et on a commencé à regarder la musique, à choisir par exemple entre les airs pathétiques, aussi des airs avec des instruments, avec la flûte, avec le bois, enfin, et des airs avec du chœur, enfin c'est ça un peu, on essaie de reconstruire une sorte de, voilà, l'opéra dans l'opéra, je sais pas.
Ma proverai tiranno, sei tranquillo.
Tout à l'heure du jeu avec votre propre image, comment vous viennent ces idées des mises en scène de vos disques? On se souvient, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Anita Ekberg, Anna Magnani pour Norma. Ici, vous êtes photographié avec cette toque de fourrure, en tsarine. Ça vous vient à quel moment, ces idées?
Mais ces idées, ça vient justement, je crois que c'est très important. On a dans un projet, d'abord, il faut choisir la musique. La musique, c'est doit être une musique de grande qualité, mais surtout, il y a toujours une histoire à raconter. Et je trouve après après l'histoire de Stéphanie, ce prêtre espion qui a vécu une bonne partie de sa vie dans l'Allemagne protestante, voilà, de évoquer ce prêtre, et après de évoquer les tsarines, c'est quand même, ça fait part de, voilà, de... Finalement, c'est ça ce qu'on fait sur scène. On se plonge dans une opéra, voilà, dans les caractères, dans le personnage. Et ça, c'est très amusant, c'est un côté aussi, cet aspect d'humour qu'il faut avoir aussi, dans, je pense, et dans chaque projet.
Le coup d'envoi du disque a été donné à la Galerie des Glaces, à Versailles. Pourquoi Versailles ?
Alors, Versailles, là, alors d'abord, il faut que vous avez parlé justement de la couverture du disque. C'est vrai, pour la première fois, j'avais dans ma tête un callback, je ne sais pas comment dire en français. Mais c'est de la faux fourrure, hein, ça, il faut dire, pour les écologistes, parce que sinon, ils vont penser que là, j'ai arrivé à Saint-Pétersbourg, dans la Sibérie, et j'ai commencé à tuer tous les animaux. Non, alors ça, il faut préciser. Et la Galerie de Glace, finalement, Versailles, parce que. Si on pense à la ville de Saint-Pétersbourg, l'Ermitage, c'est quand même la réponse à Versailles. Et Versailles, parce que pour évoquer justement les tsarines, il faisait avoir un palais royal. Ouais. Et là, je trouve que à Versailles, dans la Galerie de Glace, c'était un moment de pure magie. C'est vraiment une inspiration immense et un privilège immense, justement, de faire la musique dans ce château merveilleux. Oui.
Vous semblez très attaché à certains lieux. Vous aviez quitté un peu le Théâtre des Champs-Élysées pour la salle Pleyel. Vous y êtes revenu déjà l'année dernière pour chanter Othello de Rossini. C'était la première production scénique que vous faisiez à Paris depuis 25 ans, je crois.
Dis donc, c'est vrai.
Qu'est-ce qui vous attire comme ça dans les lieux, un lieu comme le Théâtre des Champs-Élysées ou l'Opéra de Zurich où vous chantez souvent?
Le lieu, le Théâtre des Champs-Élysées, c'est un théâtre vraiment... j'aime beaucoup ce théâtre, théâtre art déco, c'est vraiment... Il y a une atmosphère absolument magique et une très bonne acoustique finalement. Mmh. Et je trouve que ça, c'est très important. Et le public est très proche finalement de la scène. Et j'aime bien cet aspect justement qu'on peut vraiment partager... 100% les émotions et ça c'est impératif et je trouve le théâtre de Zurich c'est aussi la taille du théâtre comme celui-là c'est un peu plus petit le théâtre de Zurich par rapport au théâtre des Champs-Élysées comme capacité de place et c'est la maison où on m'a donné enfin là j'ai vraiment fait mes débuts mozartiens rossiniennes et c'est un peu ma famille une partie de ma famille là, à l'Opéra de Zurich.
Vous disiez partager l'émotion et votre direction artistique au Festival de Pentecôte de Salzbourg vous donne aussi l'occasion de partager vos goûts. Qu'est-ce qui vous a attiré dans Iphigénie en Tauride que vous avez programmé cette année? Vous aviez fait un disque consacré au Gluck italien, ces opéras seria, qu'on commence un peu à redécouvrir dans leur intégralité.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a mené de ce Gluck italien au Gluck français, d'autant que vous avez chanté évidemment le Contori, mais vous chantez rarement en français.
Rarement en français, c'est vrai. Et je chante en anglais, oui, ça m'est arrivé, des oratoriums de Handel. Et le Gluck, justement, vous avez mentionné le Gluck italien, toute la période que Gluck, et les opéras de Metastasio, enfin, oui. Le livret de Metastasio. Et ça, on dit justement que c'est le Gluck avant la réforme. Et moi, j'étais très intéressée à le Gluck après la réforme, alors c'est-à-dire le Gluck français, où ça change finalement vraiment, on quitte tous les récitatifs secchi, on peut dire, pour le récitatif accompagnati. Alors c'est une autre forme de chant, et je trouve, et là l'Iphigénie en Tauride c'est une chef-d'œuvre absolue. Et là cette année, chaque fois à Salzbourg, j'essaie toujours d'avoir un thème pour le festival de Pentecôte, et le thème c'est la mythologie grecque. Là sera la mythologie grecque. Alors je trouve que, voilà, il y aura une Iphigénie en Tauride avec la mise en scène de Patrice Corrier et Moshe Leiser, dirigée par Diego Fasolis et i Barocchisti, mais aussi on va voir la Semele d'Endel en version de concert, là, et ce sera chanté en anglais, enfin, alors, je trouve que, et c'est tout à fait, l'esprit de Semele, c'est tout à fait, c'est très différent finalement de l'Iphigénie. Et c'est un autre défi finalement de chanter le Gluck en français, mais je pense que là, le compositeur, je trouve que Gluck un compositeur absolument incroyable, la musique de Gluck, comme la musique de Haydn, par exemple. Mais c'est vrai, ce sont des compositeurs moins connus par rapport à Mozart, par exemple.
Thank you.
Qu'est-ce qui fait votre collaboration avec Patrice Corrier et Moshe Leiser? Qu'est-ce qui vous plaît tant avec eux? Parce qu'ils vous ont mis en scène dans une demi-douzaine d'opéras déjà.
On a fait, j'ai travaillé beaucoup avec eux. Et là, je trouve qu'ils sont des metteurs en scène absolument fantastiques. Parce que d'abord, ils sont musiciens. Alors, ça veut dire que la grande source d'inspiration vient de la musique. Bien sûr, ils ont service aussi du livret, mais c'est la musique, c'est là l'inspiration, la grande inspiration. Alors ça, ça me fait penser beaucoup au grand metteur en scène Ponel, Jean-Pierre Ponel. Et lui aussi, il était un grand musicien. Et je trouve que Patrice et Corrier et Moshe Leiser, ils ont vraiment toujours des idées très intéressantes. Et en même temps, qu'ils arrivent vraiment à toucher le cœur des gens. Et je trouve que ça, qui nous ouvre dans des dimensions, voilà. Chaque fois, c'est une aventure pour notre cœur et notre brain, comment dire, notre esprit, oui.
Et aujourd'hui, en tant que femme, vous vous sentez plus Norma, Semele, Alcina, Cléopatra
Alors là, je viens de faire mes débuts comme Alcina, et c'est vrai, l'opéra Alcina, c'est... Là, bien sûr, je chantais Cléopâtre, et honnêtement, Alcina, musicalement, c'est encore plus... Je trouve que c'est une opéra encore plus... Comment je veux dire, plus profonde, oui. Finalement. Et la femme Alcina, sûrement le rôle d'Alcina, c'est plus aussi plus intéressante à jouer. Enfin, il y a plus de palettes de couleurs qu'on peut justement montrer. Et surtout, c'est l'amour, la fragilité, justement. C'est ce qui est très, très touchant dans le rôle d'Alcina, cette femme amoureuse et abandonnée, finalement. Et Norma, c'est un autre moment. Bien sûr, on parle de l'œuvre, peut-être l'œuvre la plus importante de Bellini. Et quand je jouais Norma, je crois que c'est sûrement un rôle très complexe, Norma, parce que d'abord de proposer une Norma différente de la Norma qu'on a l'habitude, qu'on a grandi avec les plus grands Norma des années 50, voilà.
Donc une des grandes.
Callas, Sutherland, Caballé, Cerquetti, même, si. Et la nouvelle vision, c'est qu'on a fait Norma pour la première fois avec des instruments d'époque à Salzbourg, et une version aussi scénique très intéressante avec des idées. Enfin, je trouve. D'ailleurs, on a eu le prix comme meilleure production de l'année 2013. Et surtout, là, plusieurs théâtres maintenant m'ont demandé justement de faire le Norma Tour dans plusieurs théâtres. Et peut-être. Là, il y a aussi un projet de venir à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, avec cette production.
Cécilia Bartoli, merci. On vous retrouve au Théâtre des Champs-Élysées les 1er et 7 novembre dans le programme Saint-Pétersbourg, toujours avec Diego Falzolis et Ibarro Kisti, que vous avez enregistré donc chez Deka. Le disque vient de paraître et on vous voit un peu partout en ce moment dans le métro à Paris. On croise votre visage. Merci.
Merci. Ты беда, 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 беда,
Besoja sortida, e do, e do, e do.